Et merci pour, à toute l'équipe de louange. Là. Bienvenue à tous ceux qui sont ici ce matin. Bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi également sur Internet. Moi, j'aimerais commencer ce matin avec une question. On va faire un genre de concours. Le premier là, qui réussit à répondre, répondez avec une voix forte. Je vais vous montrer une image et vous me dites c'est quoi, d'accord? Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? D'accord. Une semaine à Cancun, celui qui l'a le premier. Non, pas tout à fait ça. Hein? C'est... On va vous payer un café après, oui, en arrière. OK, d'accord. Vous êtes prêts? Like. Oui. Mais sur Facebook, hein, sur l'Internet, ça veut dire like. Ou en français, j'aime. J'aime. Et bon, l'ami, je vous dis que quand on voit sur Internet, on a beaucoup de « j'aime », hein, et on aime. Et c'est un mot qui revient très souvent, ça, dans notre vocabulaire, le mot « amour ». On emploie ce mot-là très souvent, l'amour. On emploie toutes les sauces, mon ami. On va dire, par exemple, « j'aime ma femme »,« j'aime mon travail »,« j'aime mon chat »,« j'aime la sauce spaghetti de ma femme ». Est-ce que ça paraît qu'elle a fait une sauce cette semaine? On aime « mon travail », hein, on voit ça un peu partout. Il y a un paquet de chants, d'ailleurs, à travers le monde qui ont été composés, qui parlent de l'amour. Savez-vous comment est-ce qu'il y a de chansons qui existent dans le monde entier? Hey, c'est toute une industrie sur la musique puis la chanson. Vous serez peut-être surpris. Music Hype, le président Kevin King, a dit en 2011 que déjà dans ce temps-là, en 2011, il existait 97 millions de chansons dans le monde. Répertorié, là. C'est fou, là. Et la plupart vont parler de près ou de loin, sous un angle un peu différent, de l'amour. On parle beaucoup d'amour. Et les gens ont leur opinion sur ce que c'est que l'amour. Chaque personne, je pense, a un peu sa, son idée de ce que c'est que l'amour. Eh bien, ce matin, ce qu'on va faire, on va s'arrêter puis on va ouvrir les Écritures saintes, on va regarder la parole de Dieu et voir comment Dieu lui-même décrit l'amour. C'est quoi l'amour selon Dieu? Maintenant, on va tourner dans un passage qui est vraiment connu. Amonio, c'est un classique. Écoutez, j'ai fait plusieurs mariages à travers les années. Puis, 7 fois sur 10, vous savez, lorsqu'on veut marier un couple, on leur demande, quand on prépare la cérémonie, avez-vous un passage de la Bible que vous aimeriez qu'on lise lors de la cérémonie? Et 7 fois sur 10, à peu près, les gens vont choisir 1 Corinthiens 13. Pourquoi? Parce que ça parle de l'amour. C'est un classique. D'ailleurs, même les non-croyants connaissent 1 Corinthiens 13. Il y a des chants qui ont été composés sur 1 Corinthiens 13. Il y a des poèmes qui ont été composés sur 1 Corinthiens 13. C'est un classique, c'est bien connu. Alors, ce matin, ce qu'on va faire, on va regarder les Écritures et on va regarder ce que les Écritures disent à propos de l'amour. Vous savez, la Bible dit beaucoup de choses en regard à l'amour, mais nous allons nous arrêter principalement sur un passage qui montre, premièrement, l'importance et la supériorité de l'amour. On va voir aussi comment Dieu définit l'amour à travers une lettre de Paul aux Corinthiens, et on va voir comment le vivre pleinement, cet amour-là, dans notre quotidien. Alors, juste avant qu'on passe à la lecture de ce passage-là, courbons-nous juste un instant, si vous voulez bien, et demandons à Dieu sa bénédiction. Seigneur, ce matin, on aimerait nous arrêter sur ce passage que tu as inspiré lorsque Paul écrivait sa lettre aux Corinthiens. Nous réalisons, Seigneur, lorsque nous lisons ce passage dans 1 Corinthiens 13, à quel point notre chair n'est pas capable d'aimer comme ça, Seigneur. Nous prions que ton esprit nous aide et nous sommes encouragés de savoir que tu nous accompagnes chaque jour de la vie, tu nous aides à mettre en pratique ta parole. Parce que, au naturel, nous ne serions pas en mesure de pouvoir exprimer et exercer ce genre d'amour que nous allons voir ce matin. Mais merci Seigneur, par la croix, le sacrifice de Jésus, maintenant nous le pouvons. On te prie de parler à nos cœurs, Seigneur, de nous aider à comprendre et à mettre les domaines dont on a besoin de travailler dans notre vie. de pouvoir nous les montrer et nous aider à pouvoir travailler sur ces domaines. Et c'est pour ta gloire, Seigneur, ta plus grande gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va lire tout le chapitre. En fait, on va lire, il y a juste 13 versets, donc on va regarder tout le passage. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 1, et ça commence alors que Paul va montrer la supériorité, va montrer l'excellence, va montrer finalement l'importance de l'amour. Et d'ailleurs, il va consacrer une bonne partie du chapitre là-dessus. Les versets 1 à 3 va parler de la supériorité de l'amour. Et il va même revenir, ce qu'il va faire, il va définir l'amour après ça, versets 4 à 7, et après ça, il va revenir avec cette idée de la supériorité de l'amour, la permanence et l'excellence de l'amour. Alors, verset 1. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est quoi? C'est l'amour. Maintenant, on entend tellement souvent le 1 Corinthiens 13, soit dans le contexte de mariage et tout ça, qu'on oublie que ça s'inscrit à l'intérieur de trois chapitres, les chapitres 12 jusqu'à 14, où il est question des dons spirituels, ces dons miraculeux et surnaturels que Dieu donne à chaque chrétien. Chaque croyant, Dieu a donné un don spirituel. Il y a différents dons, on a vu la liste la semaine dernière, et il y a différents dons, et ces dons sont vraiment comme une capacité surnaturelle, une capacité divine pour accomplir une œuvre, une tâche que Dieu nous confie. Et chaque croyant en Jésus-Christ, chaque personne qui a passé par la nouvelle naissance a reçu un don de l'Esprit. Mais voilà qu'à Corinthe, un problème a surgi, c'est qu'il y avait des dons un peu plus spectaculaires, plus visibles que d'autres. Et on a commencé à mesurer la spiritualité des gens par l'usage des dons ou même le don qu'ils possédaient. Et si tu possédais un don qui était plus visible, plus spectaculaire que d'autres, tu commençais à être un peu hautain. Et c'était le problème de l'Église de Corinthe. On a commencé donc à juger la spiritualité des dons selon le don que tu avais, s'il était plus spectaculaire, plus puissant que d'autres. Et on commençait à mépriser, à regarder d'un air hautain les autres personnes de l'Église qui avaient des dons peut-être moins visibles. Et bien, d'ailleurs, les gens de l'Église qui avaient des dons peut-être un peu moins frappant, moins spectaculaire, eux-mêmes commençaient à se sentir comme des chrétiens de deuxième classe. Et l'apôtre Paul doit intervenir et va commencer donc ces trois chapitres qui commencent au chapitre 12 jusqu'au chapitre 14 pour enseigner sur les dons spirituels. Et la façon qu'il va commencer dans les trois premiers versets, chapitre 12, il va dire, voici ce que c'est que d'être spirituel. Il va donc expliquer comment reconnaître que l'Esprit agit dans la vie d'une personne. Et il donne finalement deux critères pour mesurer la spiritualité. Et ce qu'il dit, c'est certainement pas le don que tu as. Ce n'est pas comme ça qu'on mesure la spiritualité. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut voir l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. La façon qu'on va voir que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, que tu es rempli de l'Esprit, c'est premièrement que tu vas reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, le Seigneur de ta vie. Tu vas céder le contrôle de ta vie au Seigneur Jésus. Et tu vas le laisser être le Seigneur, agir comme le Seigneur de ta vie. Tu lui donnes le contrôle de ta vie, premièrement. Deuxièmement, c'est en faisant du bien aux autres. Tu as compris que tu as reçu un don pour t'en servir, pour te servir de ce don-là pour bénir les autres, faire du bien aux autres. Il y avait donc cette coutume à l'époque, hein, des gens qui remontent au temple à Corinthe ou qu'ils allaient prier les divinités avant d'être chrétiens. Puis ils souhaitaient le malheur à leur rival, à leur compétition. D'ailleurs, les archéologues ont découvert plus de 24 tablettes à Corinthe même, qu'on appelle les tablettes de malédiction, où les gens priaient leur divinité et demandaient à leur divinité, finalement, de prononcer une malédiction, un malheur sur leur rival. Et certains chrétiens de Corinthe ont commencé à faire la même chose, à prier Jésus et demander finalement que Jésus puisse tasser la compétition, puisse prononcer une malédiction à la compétition. Et l'apôtre Paul a dit, « Mon ami, c'est vraiment pas comme ça que tu vas reconnaître que tu vas être spirituel. C'est pas comme ça qu'on reconnaît que tu sois spirituel. Parce que quelqu'un de spirituel ne ferait jamais ça. Parce que quelqu'un qui est spirituel, que l'on peut voir l'évidence de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, va chercher à bénir et à faire du bien aux autres. » Et là, Paul va commencer à décrire les dons d'esprit. Et comment on veut faire du bien aux autres? C'est en exerçant le don que tu as reçu envers les autres. Et la première chose qu'il va établir, c'est que tous les dons sont importants, même ceux qui ne sont pas visibles, parce que nous sommes un corps. L'Église est un corps, nous avons plusieurs membres dans ce corps, le corps de Christ, Jésus étant la tête, et nous sommes tous là pour s'entraider mutuellement, faire du bien et s'aider à grandir dans le Seigneur. Alors là, il va montrer une liste des dons. Ensuite, il va conclure le chapitre 12 en disant ceci au verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par l'excellence. » Et ce qu'il va démontrer, c'est en ouvrant le chapitre 13, il va démontrer que tu peux avoir les dons les plus spectaculaires, les plus merveilleux que tu veux, si tu n'as pas l'amour, dans le fond, ça ne sert absolument à rien. Tu es en train de corriger justement cette erreur qui circulait à Corinthe et dans bien nos églises. Alors, il va montrer, il commence le chapitre 13 en démontrant la supériorité de l'amour à tous les dons, finalement. C'est l'importance de l'amour. Alors, il commence au verset 1, il dit, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » En d'autres mots, je fais du bruit. Ça bouge, mais ça ne donne absolument rien si je n'ai pas l'amour. Si j'ai le don de prophétie, imaginez, si j'ai le don de compréhension, si j'ai ce don surnaturel de pouvoir connaître même les mystères des Écritures, de toutes les connaissances. En d'autres mots, tu peux venir me voir et sur n'importe quel sujet de la Bible, que je sois un grand théologien et que j'aie toutes les réponses comme ça et le verset comme ça, si je n'ai pas l'amour, ça ne donne absolument rien. Je peux être un grand théologien, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne donne rien. Je peux avoir la foi aussi jusqu'à faire bouger des montagnes, une expression qu'on employait chez les rabbins qui disait quelqu'un qui réglait bien des problèmes. Tu peux avoir cette puissance, cette sagesse de pouvoir résoudre plein de problèmes et tu peux avoir cette foi-là de pouvoir prier et Dieu déplace des montagnes, règle de gros défis et des problèmes de façon tout à fait spectaculaire. Et tu es reconnu dans l'Église pour ça. Donc, les gens vont te voir avec ce don de foi. Ils savent que toi, quand tu pries, les choses bougent. Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne donne absolument rien. Imagine. Je peux donner 90 % de mes revenus aux pauvres, aux démunis. Je peux livrer même mon corps au feu. Je peux être prêt à mourir pour une cause, quelle qu'elle soit, si je n'ai pas l'amour. Ça ne donne rien. Paul est en train de nous dire, si tu n'as pas l'amour, arrête tes études. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça que ça laisse entendre. Arrête tes études en théologie. Si tu n'as pas l'amour, cesse là parce que c'est tellement important. Cesse, mets ça de côté, tu reprendras plus tard. Et commence à travailler sur ton amour. Investis-toi, investis du temps maintenant à travailler sur ton amour, à prier le Seigneur, puis à vraiment à chercher à aimer comme je vais le décrire ici au verset 4, au verset 7. Maintenant, l'amour est tellement important qu'une bonne partie de tout ce chapitre tourne autour justement de montrer l'importance de l'amour et de sa supériorité aux dons, à tous les dons. Aussi impressionnant que les dons puissent être. Alors, c'est quoi l'amour? Paul va commencer au verset 4. Et j'ai vraiment juste quelques versets. Écoutez, on parle du verset 4 à 7. Là. Et à l'intérieur de ce petit passage, juste ces quelques versets, Paul va soulever plus de 15 qualités à l'amour. Et il le définit assez clairement en l'espace de 4 versets. Et quand on s'arrête, on regarde tous ces dons, on remarque une chose, quelque chose qui est vraiment frappant quand on regarde toutes ces qualités de l'amour, ces caractéristiques de l'amour, ces aspects-là de l'amour. Quand on arrête, on regarde comment Paul définit l'amour. Tous les mots relèvent d'un geste, d'un comportement. C'est des verbes d'action. Ça bouge. Exemple, le verset 4 commence en disant « L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Fait rien de malhonnête. Cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Ça ne réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne meurt jamais. » Est-ce que là, on voit dans ce passage la description de l'amour, dans le fond, que le Seigneur donne à travers la plume de Paul? C'est que ce genre d'amour est la marque d'une personne qui marche avec le Seigneur. Et dans le contexte, c'est très important lorsqu'on retourne dans le contexte d'un Corinthien, parce que les Corinthiens n'avaient pas cet amour-là. Et pour nous, on a besoin de réaliser que l'amour, ce n'est pas juste une question sentimentale. C'est quelque chose de très concret. Ça porte des jeans, ça porte des bottes de construction. C'est actif, ça bouge. C'est pas juste émotionnel. C'est des verbes d'action. Alors, si ces qualités de l'amour ne sont pas chez le chrétien, tout ce qu'on pourrait faire comme sacrifice, comme étude, comme travail, c'est rien. Alors, on aimerait regarder ici quatre particularités que l'on voit dans ce passage concernant l'amour. Premièrement, l'amour n'est pas une qualité optionnelle. Ce n'est pas une option. Vous savez, aujourd'hui, avec les applications, tu peux faire entrer une application sur ton téléphone intelligent. Puis maintenant, on te donne deux options, dans le fond. On te donne une option, la version gratuite. Et tu rentres ça, là, puis tu as la version, tu rentres ça, ça peut être un jeu, n'importe quoi, puis tout ça. Puis là, tu as une version gratuite. Puis à un moment donné, ils vont t'offrir, ils vont dire, bon, là, ils vont te laisser jouer un peu avec, puis tout ça. Là. Puis après ça, ils vont t'envoyer une petite note de la publicité, puis tout ça. Ils vont te dire, veux-tu la version complète? Il y a certaines particularités que tu n'as pas dans la version gratuite. Tu veux-tu la version complète? Oui, je la veux! Bing! Combien ça coûte? Mais sais-tu, l'amour n'est pas optionnel pour la vie d'un chrétien. Pour un chrétien, l'amour, ce n'est pas une option, un ajout. Là. Ça ne vient pas comme un supplément. L'amour, c'est l'essence, c'est au noyau même du christianisme, c'est le cœur du christianisme, l'amour. C'est l'essence même de ce que ça signifie que d'être un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne pas avoir cet amour-là rend tout ce que l'on fait inutile. Et c'est Jésus lui-même qui a dit dans Jean 13, n'est-ce pas? Dans Jean 13, verset 34, qui dit ceci. Est-ce que vous l'avez, vous autres? Ah, oui. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si, n'est-ce pas? Si. » Ça, c'est mon sel. Très bizarre. Très étrange. J'ai dû l'accrocher. Madame veut me parler, mais... Alors, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, ça, c'est la démonstration que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est comme ça que les gens vont reconnaître autour de nous que nous sommes des enfants de Dieu si on s'aime les uns les autres. En d'autres mots, si vous n'êtes pas patient... plein de bonté, si vous n'êtes pas toutes ces choses les uns envers les autres, personne ne saura que vous êtes un de mes disciples, dit le Seigneur Jésus. Parfois, certaines personnes vont critiquer l'Église. Ils vont dire, écoutez, moi, ils vont même critiquer l'Évangile, ils ne croiront pas et tout ça. Puis on tire la conclusion des fois que c'est parce que leur cœur est dur, leur cœur est fermé et tout ça. Et absolument, c'est vrai. Mais en même temps, lorsque tu écoutes certaines personnes te dire pourquoi elles refusent l'Évangile, tu découvres que des fois, c'est parce qu'ils ont connu certains chrétiens. Puis moi, mon ami, je vous dis que ça n'a pas été... ça graffinait. Ils ont été blessés par certains chrétiens. puis il n'y avait pas vraiment beaucoup d'amour, là. Et dans bien des cas, c'est ça. Et Jésus dit, c'est comme ça qu'on va reconnaître que tu es un enfant de Dieu, tu es un de mes disciples, que tu marches avec moi si vous vous aimez les uns les autres. 1 Jean 4 poursuit dans la même veine et dit ceci, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Lorsque Jésus-Christ écrit à 7 églises dans l'Apocalypse, il s'arrête puis écrit à l'église d'Éphèse. Et voici ce qu'il dit à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse chapitre 2. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et l'amour dont il est question ici, c'est l'amour dans 1 Corinthiens 13. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » C'est vraiment étrange cela parce que « pratique tes premières œuvres ». Alors que Jésus parle à l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse faisait plein d'œuvres. Jésus vient de dire dans le passage, tu travailles fort, je sais que tu travailles fort, il dit ça à l'église d'Éphèse, tu persévères, tu es saint, alors tu cherches à être pur, tu as une bonne doctrine et tu souffres pour la cause de l'Évangile. Hey, c'était une église pas mal active, là. Mais pourtant, Jésus va leur dire, tu as perdu ton premier amour. Donc, retourne à tes premières œuvres. Et c'est quoi les premières œuvres? Les œuvres que Paul, c'est le même mot que Paul, que Jésus emploie ici, ce sont les œuvres décrites dans 1 Corinthiens 13. Cet amour-là que l'on voit défini entre les versets 4 et verset 7. Pratique tes premières œuvres. En d'autres mots, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour met les intérêts des autres en premier. Même si ta doctrine est bonne, l'amour n'est pas une option. C'est la même chose dans notre mariage, au travail, partout. Si nous suivons le Seigneur Jésus, l'amour n'est pas une option. On peut faire un paquet de choses, mais si l'amour n'est pas là dans notre vie, si on n'aime pas les autres, eh bien, ça ne donne rien. Vous savez, à travers les années, on a rencontré bien des couples, des gens qui venaient nous voir avec des problèmes de couple et tout ça. Et ce que j'ai entendu plus d'une fois, c'est que des couples vont arriver puis ils vont nous dire, « J'aime plus ma femme » ou « J'aime plus mon mari ». Et je comprends ce qu'ils veulent dire. Dans le fond, ce qu'ils veulent dire, c'est probablement que les blessures avec les années ont fait que les sentiments à l'endroit de son conjoint sont tranquillement... disparaissent d'année en année avec les blessures et tout ça. Et on peut comprendre cela. Mais ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est que même si tu es rendu là, aime selon 1 Corinthiens 13, ton conjoint. Tu n'as peut-être pas les sentiments en ce moment, peut-être pas les émotions, mais par obéissance, par la puissance du Saint-Esprit, parce que dans ta propre chair, tu ne serais pas capable de faire ça. Au naturel, on n'est pas capable de faire ça. D'aimer tel que 1 Corinthiens 13 nous demande d'aimer. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, maintenant que tu es un enfant de Dieu et que tu as cette puissance-là, tu peux maintenant aimer tel que le définit 1 Corinthiens 13. Et tu verras qu'avec le temps, probablement que les émotions vont venir. Les études le démontrent à part de ça. Les études démontrent que si un couple ne s'aime plus, mais qu'ils s'investissent et travaillent sur leur couple en l'espace de quelques années, cet amour-là qui était perdu, on ne dit pas que ce n'est pas vrai, c'est tout à fait vrai, mais cet amour-là peut revenir. Certainement, dans 75 % des cas, je pense, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est la première particularité d'être un disciple. L'amour n'est pas une option. Voici la seconde. L'amour est quelque chose qu'on fait. Ce sont tous des verbes. Ce sont des actions. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Et même le mot patient, le mot patience, on pourrait dire, oui, mais ça, c'est un trait de caractère. Non, non, absolument pas, parce que, vous savez, le mot patience utilisé ici, c'est le mot patience qui est en regard avec les gens. On ne parle pas ici de manquer de patience avec des circonstances ou des choses. C'est sûr que tu ne seras pas très patient si tu prends un marteau, puis tu fais la construction, puis tu te frappes le pouce. Tu vas manquer de patience. Mais ça, c'est une chose. Mais dans 1 Corinthiens 13, ça nous dit que l'amour est patient dans nos relations. On parle de personnes. Et ça parle de personnes particulièrement difficiles à aimer. C'est facile d'aimer quelqu'un qui est gentil, qui est super fin et tout ça. Absolument, Ce n'est pas un effort. Mais de aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, ça, mon ami, est une marque d'un disciple de Jésus-Christ. Et dans ta chair, au naturel, on ne sera pas capable de le faire. Mais par la puissance du Saint-Esprit, maintenant qu'on est un enfant de Dieu, on peut le faire. C'est faisable. Ça, c'est la bonne nouvelle. En d'autres mots, le Seigneur est en train de nous dire ici d'user de patience. L'amour use de patience envers les personnes qui nous rendent la vie difficile. Ah, mon Dieu! C'est un acte de volonté qui peut maintenant s'accomplir par la puissance du Saint-Esprit maintenant que tu es des enfants de Dieu. Avec ce genre d'amour, tu peux même aimer ceux que tu affectionnes le moins. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a dit « Aimez vos ennemis » dans notre chair, au naturel, on ne pourrait pas aimer nos ennemis. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, maintenant, on peut le faire. Et lorsque Jésus dit « Aimez vos ennemis », il est en train de nous dire « Agis comme 1 Corinthiens 13 ». Peut-être que tu n'auras pas des émotions et des sentiments et tout ça derrière, mais fais-le selon 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Est-ce que ce n'est pas la preuve d'un amour que de placer les intérêts de l'autre avant les nôtres, avant les miens, lorsque je fais quelque chose de concret envers une personne qui m'est difficile, qui me rend la vie difficile, mais je prends la décision de faire quelque chose de bien, de le bénir, de faire du bien à cette personne-là? C'est là que je suis en train d'aimer mon prochain. Oui, mais des fois, vous savez, des fois, on dit, ouais, mais ça, c'est pas sincère. J'ai entendu ça, ouais, mais c'est pas sincère, ça. Moi, il y a quelques années, j'ai rencontré un couple. Et en fait, j'ai rencontré le mari, puis il décrivait sa femme, puis j'ai dit, écoute, voici ce que tu vas faire. C'est bien clair, tu sais, ta femme, à quelque part, veut que tu lui démontres que tu l'aimes et tout ça. Oh, oui, mais elle sait, ma femme, tu sais, sa fameuse phrase, elle sait que je l'aime. Je n'ai pas besoin de lui dire, écoute, j'ai dit, écoute, on fait un exercice, tu vas voir. Tu vas prendre, tu vas aller dans une boutique, tu vas aller acheter une rose. Tu vas aller acheter une rose, tu connais ta femme, tu sais, tu me l'as décrit, tu m'as décrit ta femme. Et elle va apprécier ça. Donc, va acheter une rose et ce soir, quand tu vas arriver à la maison, donne-lui la rose. Maintenant, je te dis, lui-là, c'était tellement pas son genre, tellement pas. Il dit, voyons donc, il dit, elle va savoir que c'est pas moi, ça va être artificiel, c'est pas sincère, voyons. Elle va dire que t'es pas sincère, puis tout ça, tu sais. Fait que j'ai dit, fais-le. Prends la décision de le faire. Ça te tente pas, mais fais-le. Fais ce pas-là. Alors, vous savez ce qu'il a fait? T'es allé à la boutique, t'es allé acheter une rose, une belle rose, là. C'est tellement pas son genre. Mais il arrive chez eux, frappe, ça rentre. Puis offre une rose à sa femme. Voici la réaction de sa femme. Bon, c'est normal qu'il te dit de faire ça, là? Ah, oh, pauvre lui! Aïe, 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 très encourageant. J'ai rencontré sa femme. Et voici ce que j'ai dit. J'ai dit, je sais que ce n'est pas naturel et tout ça, mais pense-y. Regarde à quel point il t'aime. Justement, si c'était facile pour lui, si toutes les semaines, il a acheté des roses, puis c'était naturel, c'était son caractère, c'est un romantique, puis il est toujours en train d'acheter des roses, tu dirais bien merci. Mais imagine-toi, c'est pas pantoute son genre. C'est pas lui, ça. Mais il a pris la peine de faire un détour, d'aller dans une boutique, puis d'acheter, de choisir une belle rose, sachant que tu rirais probablement de lui, et il l'a fait pour toi. Ouais. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce que tu vas faire? Encourage-le, remercie-le, félicite-le. Amen! Alors que ça tente, que ça tente pas, l'amour, selon 1 Corinthiens 13, 4, est productif. Fais quelque chose. Que ça lui tente, ça ne tente pas, on le fait par la puissance du Seigneur, on va agir, c'est actif. L'amour est quelque chose qu'on fait. Ce n'est pas optionnel et c'est quelque chose qu'on fait. Bien, voici la bonne nouvelle. C'est même si ça ne tente pas de le faire. étant donné que je suis un enfant de Dieu. Je choisis de le faire et le Saint-Esprit va me donner la puissance dont j'ai besoin pour le faire, même si ça ne me tente pas. Je peux donc choisir. Tu peux choisir de le faire même si ça ne te tente pas, parce que le Saint-Esprit va t'accompagner. Et c'est ce que Jésus a fait. Rappelez-vous lorsque Jésus est allé dans le jardin de Gethsémané. Par trois fois, il a demandé à Dieu d'éloigner la coupe qui s'en venait, puis il parlait de la croix. Pensez-vous que Jésus était dans le jardin, puis j'ai tellement hâte d'aller me faire martyriser, persécuter, on va rire de moi, moi qui est le créateur de toute l'humanité, on va me planter des clous, on va m'humilier, on va rire de moi, et je vais souffrir jusqu'à mourir, absolument pas. Jésus était en train de prier, il souffrait, puis il demandait à Dieu d'éloigner cette coupe. Mais parce qu'il a mis nos intérêts avant les siens, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la croix. Et c'est ce que nous dit Philippiens chapitre 2. L'amour met les intérêts des autres en premier. Troisième aspect de cet amour, l'amour met les intérêts des autres en premier. Nous lisons dans Philippiens 2, verset 3, voici ce qui est dit. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et là, il t'en a parlé de la croix. Vois-tu? L'amour de Jésus-Christ se définit très simplement par le fait qu'il a mis nos intérêts avant les siens. Et est-ce qu'on n'est pas heureux qu'il l'ait fait? N'est-ce pas? Et vous pouvez le faire aussi. C'est un acte de volonté. Puis on est rendu capable maintenant avec la puissance du Saint-Esprit. Quand on regarde Jean 13 à nouveau, Jésus regroupe ses disciples. Et là, il y a une scène où Jésus prend le rôle le plus humble d'un foyer, c'est le rôle d'un serviteur. Il va prendre une serviette, il va commencer à laver les pieds de ses disciples. Mais je vais vous faire ressortir l'introduction à ce passage-là qui se trouve dans Jean 13. Voici ce que ça dit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Ça veut dire quoi ça? D'ailleurs, dans d'autres versions, on va lire « mis un comble à son amour ». Comment va-t-il les aimer jusqu'à l'extrême? En se mettant à leur service, en plaçant leurs intérêts au-dessus des siens. Il y a un autre aspect aussi de cet amour qui est bien important et on ne veut pas l'oublier, négliger cet aspect-là aussi. L'amour n'est pas une option, c'est quelque chose qu'on fait. On veut mettre les autres, les intérêts des autres en premier. Mais l'amour aussi va tracer des frontières. L'amour trace des frontières. Le genre d'amour décrit ici dans ce passage place des frontières. Nous lisons, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour va se réjouir de la vérité. Il n'est pas une question ici d'un amour qui dit tout ce que les gens veulent entendre, qui fait tout ce que les gens veulent. Non, non, il y a un discernement ici, il y a une sagesse. L'amour ici a une frontière. D'ailleurs, nous lisons dans Hébreux 12, ce qui suit. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Vois-tu, l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu a des frontières. Il dit, ne méprise pas la correction du Seigneur. Des fois, le Seigneur va placer des épreuves dans notre vie, des corrections même, parce qu'il veut nous faire grandir. Alors, il dit, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Le mot est vraiment intéressant ici pour corriger. Dans d'autres versions, c'est discipline. Mais c'est le mot, c'est pas juste le mot dans le sens de punir, là. De punir que tu as fait quelque chose de mal, de punir. C'est un mot qu'on va employer aussi comme un coach qui va étirer ses athlètes, il va les faire passer par toutes sortes d'expériences pour se renforcer, il va faire des exercices difficiles, il va l'éprouver, le mettre à l'épreuve, au défi, tout ça, pour tranquillement le renforcer. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, j'avais 18 ans, j'étais avec une gang d'amis, de chums et tout ça. On est allé suivre des cours de judo. Puis le professeur, M. Joaneda, je m'en souviens comme c'était hier, M. Joaneda nous faisait faire des exercices dans la classe. Il n'y avait pas juste des techniques de judo et tout ça. Alors, on avait notre kimono et il nous faisait faire des exercices. Puis un jour, voici ce qu'il a dit. Il a dit, écoutez les gars, voici ce qu'on va faire. Vous allez prendre votre partenaire, vous allez l'embarquer sur vos épaules. puis vous allez courir autour du gymnase. OK? Je me tourne à droite, puis je regarde mon partenaire, il pesait en haut de 200 livres. OK? Fait que tu cours autour du gymnase. Ben, il lui dit, embarque. Il s'appelait René Lhomme. Fait que René, il lui dit, viens-t'en, embarque. Fait que je l'embarque sur mes épaules, tu sais, tant que bien que mal, on l'embarque, let's go. Tu sais, puis au début, t'es fier, hein, tu commences. Puis, ah, viens-t'en, René, viens là, viens-t'en. Fait que, tu sais, tout le monde était là, sont bien fiers, puis on commence à courir. Québec, René! Là, tu cours, puis on court là, tout le tour, tu sais. Mais quand t'es rendu à moitié, trois quarts, là, tu voyais des gars commencer à courir comme ça, là. Là, ça se promenait de même. Ça se promenait comme ça. On avait juste hâte d'arriver au bout, puis là, ça coulait. Moi, je transpirais, j'avais tellement chaud, j'avais un kimono. Ça coulait, je transpirais, puis là, je courais, puis lui transpirait en haut de moi. Puis là, on court, puis j'avais juste hâte de finir. Tiens, on va-tu la finir, la foutue gymnase? On courait, puis là, toute la gang, on était sur le bord, puis là, on se promenait, tu sais. Puis là, on arrive proche de la fin. Et tout d'un coup, le prof nous dit, « Bon, voici ce que je veux maintenant, vous avez presque fini. Vous allez faire un autre tour du gymnase, mais cette fois-ci, de reculons, en courant de reculons. » Et je ne sais pas si tu as déjà essayé ça, de courir avec un gars en haut de 200 lits, sur tes épaules, de reculons, autour d'un gymnase. Là, c'était vrai que là... Et là, mon ami, ça marchait de croche. Et là, on ne comprend pas pourquoi le prof nous fait faire ça, pourquoi c'est si difficile. Nous, on ne le savait pas, mais lui, ce qu'il voulait, il était en train de nous préparer parce qu'il voulait nous emmener en compétition, puis il voulait nous renforcer afin qu'on puisse faire face à la musique, qu'on soit devenu meilleur, plus fort, puis qu'on fasse face à l'adversaire. Et le Seigneur, c'est ça qu'il est en train de faire. Des fois, il permet qu'il y ait des épreuves dans notre vie, qu'il permet des affaires, il va nous étirer et tout ça. Et ça va être difficile. On passe par des temps difficiles. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous renforcer. Nous renforcer afin que l'on devienne meilleur. Et c'est comme ça, l'auteur aux Hébreux est en train de nous dire, regarde les épreuves de cette façon-là. Ne te laisse pas décourager par ça. Et c'est sûr que c'est difficile. Personne aime ça. Moi, j'ai jamais aimé la discipline du Seigneur, mais j'aime le fruit de la discipline. N'est-ce pas? Et c'est ce que dit Hébreux 12, verset 10, qui dit, « Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Et le verset continue au verset 11 en disant, « Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix et la justice. L'amour trace des frontières, et ces frontières sont pour notre bien. Un autre exemple de frontière que le Seigneur veut qu'on place. Alors, ce n'est pas un amour aveugle, c'est un amour réfléchi. C'est dans 2 Thessaloniciens, ça dit quoi? Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça peut paraître dur, mais dans le fond, quand tu y penses, c'est génial. C'est savant, ça. Moi, je me rappelle, je me suis occupé dans une banque alimentaire. On donnait de la nourriture à plusieurs centaines de personnes à chaque semaine à Longueuil, quand j'étais pasteur là-bas. On avait une banque alimentaire, la bouffe pour tous. Puis, il y avait une étape, quand tu venais chercher une famille, mettons, démunie, venait chercher de la nourriture pour prendre des sacs, il y avait une étape, il fallait franchir, il fallait passer. Il fallait que tu sois, on faisait ça juste une fois, on t'enregistrait dans le système, dans l'ordinateur, mais il y avait tout un questionnaire à te poser. Puis, mon ami, c'était comme pas évident, tu posais des questions assez intimes des gens, bon, tu demandais des factures, d'hydro, etc. Et tu voulais valider comme quoi qu'ils avaient vraiment des problèmes, puis ils avaient besoin de la nourriture. Parce qu'avec l'expérience, les banques alimentaires ont découvert, puis ça c'est à travers le Canada, c'est connu dans l'Association des banques alimentaires, 10% de ceux qui bénéficient ou qui veulent avoir des paniers d'épicerie, de l'aide, 10% sont des profiteurs. J'ai vu des gens prendre des sacs que l'on donnait, les prendre, partir, pour découvrir finalement après qu'ils vendaient les sacs d'épicerie pour s'acheter de la drogue. Maintenant, tu ne veux pas arrêter de donner des sacs. Il y a des gens qui se découragent et disent, ben non, on va arrêter de donner. Ben non, écoutez, c'est 10%. Il y a 90%, par exemple, qui en ont vraiment besoin. J'ai vu des situations, c'était atroce, où les filles arrivaient, des adolescentes de famille arrivaient à l'école, puis ils ouvraient leur boîte à lunch, puis ils avaient quelques feuilles de salade à manger. On en a vu des histoires, des horreurs. Donc, tu continues, tu ne te casses pas la tête avec ça. Mais ce que tu veux faire, tu veux avoir un amour qui va être réfléchi, qui va avoir du discernement. Et ici, c'est pour ça que 2 Thessaloniciens dit ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, en d'autres mots, tu vois bien un pattern qui veut se faire vivre par les autres. On ne parle pas de quelqu'un de blessé, tout ça. On ne parle pas de ça ici. Là. On parle de quelqu'un qui est en pleine forme, tout ça, et refuse de travailler, puis veut se faire vivre. Là, tu dis, garde. En d'autres mots, ce que ça laisse entendre, c'est que ce n'est pas un amour idiot. Ce n'est pas un amour que tu dis oui à tout. C'est un amour réfléchi. C'est vraiment intéressant. Dans Éphésiens 4, voici ce qu'il est dit. Ça dit, en disant la vérité dans l'amour, tu veux dire la vérité. Tu ne veux pas dire juste ce que les gens veulent entendre. Ce n'est pas ça l'amour. D'ailleurs, regarde avec un parent. Tu ne diras pas toujours à ton fils ou à ta fille tout ce qu'elle veut entendre. Ou tu ne diras pas toujours oui à tout ce qu'elle veut. N'est-ce pas? Ce n'est pas une preuve d'amour. C'est même dangereux. Tout donner ce qu'ils veulent tout le temps. Et de temps en temps, tu dois être ferme, mais dire la vérité. Alors, l'amour dit la vérité avec amour, oui, avec douceur. Si on aime les gens, on ne dira pas nécessairement ce que les gens veulent toujours entendre. Philippiens 1 dit ceci, c'est vraiment une belle prière de l'apôtre Paul. Il dit, voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Et regardez bien ce que ça dit. Paul demande précisément que l'amour augmente, puis on pourrait dire, bien, des sentiments, que j'aie plus de sentiments à l'égard des gens. Absolument pas. Il va demander deux choses. Rattaché à l'amour. Il dit, voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Comment? En connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner l'essentiel, ce qui est essentiel. En d'autres mots, on demande à Dieu de bien aimer. D'aimer intelligemment, avec du discernement, avec de bonnes frontières aux beaux endroits, réfléchir. En d'autres mots, qu'est-ce qui va être le mieux pour l'autre? Deux mots vraiment intéressants. Paul prie afin que notre amour grandisse dans deux domaines, une connaissance plus précise et plus de discernement. Et c'est le sens dans les mots originaux. Dans le fond, c'est vraiment avec raison que l'on peut dire que l'amour, c'est le plus grand acte de force et de courage. Parce que des fois, tu dois dire des choses qui sont difficiles à dire. Tu vas dire avec amour, avec tendresse, beaucoup de délicatesse et de douceur, mais tu vas les dire parce que tu aimes l'autre. Tu vas dire des choses difficiles à dire, mais tu vas le dire. Alors, l'amour, c'est le plus grand acte de force, de courage et de puissance que l'on puisse avoir dans notre vie. Il est guidé par la connaissance, il est guidé par le discernement, il sait ce qui est mieux, il cherche à comprendre ce qui est mieux. Et même si on lui fait du mal, et il voudrait se venger, riposter, eh bien, il va mettre les intérêts de l'autre en premier. C'est pour ça qu'on dit que l'amour, c'est le plus grand acte de force, de courage et de puissance que l'on puisse avoir dans notre vie. Imaginez s'aimer comme ça dans le mariage. Imaginez aimer comme ça notre travail. Les gens le remarqueraient. C'est ainsi que les gens vont remarquer que vous êtes des disciples, que vous suivez le Seigneur. Mais nous avons besoin d'apprendre la force du service, la force de mettre les intérêts des autres avant les nôtres. Et ça, mes chers amis, au naturel, on ne sera pas capable de le faire. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, on peut le faire. Et moi, j'aimerais vous donner un test maintenant. J'aimerais vous donner 5 questions. On va vous soumettre 5 questions. Et voici ce qu'on va faire. C'est un exercice que vous allez faire à la maison. C'est pas facile, c'est des questions difficiles. D'accord? L'amour se réjouit de la vérité. Ça va être une question difficile. 5 questions difficiles. Mais on le fait parce qu'on veut voir un miroir. C'est un portrait de vous, finalement. On veut apprendre un portrait du genre d'amour, où vous en êtes. Et le but n'est pas de vous écraser, de vous juger, absolument pas. C'est pour vous aider à peut-être que le Saint-Esprit pourrait se servir des réponses qu'on va vous donner. Et que vous puissiez emmener ça seul dans la prière, que le Seigneur puisse travailler ces domaines-là. D'accord? Que vous puissiez un peu cibler les domaines à travailler. Et ces questions-là, ce n'est pas vous autres qui allez répondre. Si vous êtes marié, vous allez demander à votre conjoint. Et pas de chicane. D'accord? Mais pas de chicane. Il ne faut pas avoir de chicane. On ne va pas créer une émeute. Mais vous allez humblement donner ces 5 questions-là à votre conjoint. Et vous allez lui demander de répondre à ces 5 questions-là. Vous ne pouvez pas répondre, vous ne pouvez pas répliquer, vous ne pouvez pas corriger, vous ne pouvez pas censurer. Vous écoutez, vous recevez cela. Vous pouvez, si vous avez des enfants, vous pouvez demander, s'ils sont assez vieux, vous pouvez demander à vos enfants de répondre à ces questions-là. Si vous êtes célibataire, vous pouvez demander à des amis qui vous connaissent bien, qui vont vous dire la vérité, puis tu le dis, là, tu l'encourages. Tu dis, moi, je veux que tu dises la vérité, parce que je veux le savoir, d'accord? Ça va m'aider dans ma croissance. Je veux être un meilleur disciple. OK? Vous êtes prêts? On commence la première question. Là. Et en passant, ces cinq questions-là s'inspirent, proviennent des versets 4 au verset 7. Donc, le premier verset 4 dit, « L'amour est patient et plein de bonté. » Alors, l'amour est patient et plein de bonté. Donc, c'est quoi le contraire de ça? C'est la première question. Première question qui dit ceci. Suis-je rigide, dur et difficile? Est-ce que je suis une personne difficile? Lorsque quelqu'un va me contrarier, c'est quoi ma réaction? Hein? Comment je suis, là? Dis-moi-le franchement. Et c'est la première chose qu'on a ici. L'amour est patient, plein de bonté. Alors, c'est le contraire d'être rigide, difficile. Et n'oublions pas, là, on ne parle pas de choses. On ne parle pas de circonstances. On parle dans mes relations avec les autres. Dans mes relations. Comment je réponds aux personnes qui me laissent tomber, par exemple? Comment je réponds aux personnes qui me dérangent, qui me contraignent, qui me contredisent, qui m'ennuient? Bien des gens qui ne sont pas patients vont justifier leur manque de patience en disant, « Ben, il le mérite. Il m'a contrarié. Il m'ennuie. Il est difficile. Tout pareil. Il est fatigant. » Alors, comment tu réagis aux personnes fatigantes? Laisse ton conjoint répondre pour toi. Laisse ton ami qui te connaît bien répondre pour toi. D'accord? Première question. Alors, tu veux vraiment savoir si tu es rigide, une personne difficile, demande à ceux qui te connaissent vraiment et à ceux qui partagent ta vie. Maintenant, oui, on parle, là, ici, c'est sûr qu'on manque de patience de temps en temps, ça c'est normal, mais je parle d'un pattern, je parle normalement. Est-ce que tu es reconnu pour une personne comme ça, qui est rigide, difficile? C'est pas facile d'être patient, mais avec la puissance du Seigneur Jésus, on peut y arriver. Alors, verset 4. « L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. » Deuxième question, vous êtes prêtes? « Dois-je gagner? » C'est-tu important que je sois toujours le premier, là? C'est important que je gagne tout le temps. Maintenant, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir un esprit compétitif. Au contraire, c'est bon d'être compétitif. D'ailleurs, on devrait tous être compétitifs, toujours vouloir exceller dans le domaine. Mais comment je perds, par exemple? Quelle est mon attitude lorsque je n'ai pas la première place? Lorsque je ne gagne pas tout le temps? D'accord? Alors, est-ce que je suis démoli émotionnellement quand je ne gagne pas? Alors, il s'agit de l'attitude de celui qui fait tout pour avoir la meilleure place, la première place, tout le temps. Comment avoir plus de mes relations? Comment gagner dans mes relations? Comment toujours gagner? Comment j'accepte qu'un collègue de travail qui mérite moins d'avoir une promotion à mon travail a eu la promotion? Quelle est ma réaction? Est-ce que je me réjouis du succès de l'autre? Où est-ce que j'en suis? Laisse ton conjoint répondre pour toi ou ton ami. Verset 5, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Troisième question, suis-je égoïste? En d'autres mots, suis-je centré sur moi-même? Est-ce que je prends les conversations, puis tranquillement, je vais les tourner pour que ça revienne à moi? Là. Suis-je le centre de l'intérêt? Est-ce que je veux ramener toujours ça vers moi? Là? D'accord? Maintenant, c'est difficile de vivre ou fréquenter une personne qui est centrée sur elle-même, mon ami. Jésus veut renverser l'égoïsme en nous et nous rendre généreux envers les autres. Jésus a dit, je vous ai donné un exemple, suivez-moi, faites comme moi, je n'ai pas centré ma vie autour de moi, alors que je suis en droit de faire, je suis le roi des rois, je suis le Dieu de l'univers, mais j'ai centré ma vie autour de toi. Et maintenant, je te demande, à travers la puissance du Saint-Esprit, va et fais de même. Verset 5, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Quatrième question, suis-je soupe au lait? Est-ce que je m'emporte facilement? Habituellement, nous qui sommes soupe au lait, on a toujours des excuses pour l'être. C'est vrai? Ah, je suis fait comme ça. Je suis de même. Moi, c'est mon caractère. C'est mon tempérament. J'explose. Je suis comme ça. Ben oui, mais la bombe nucléaire aussi est comme ça. Puis ça détruit. ça, mon ami, tu ne veux pas continuer de même. Là. Verset 16 dit, « Il ne se réjouit pas de l'injustice, en autre mot, mal, méchant, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Question 5, « Suis-je cynique? » Moqueur. Tu sais, j'ai été blessé à travers les années. À un moment donné, là, c'est comme si je deviens un peu moqueur. Au Québec, on appelle ça comment? Un petit peu baveux. Cynique. Ça, c'est les blessures souvent qui font ça. Je deviens cynique avec le temps et les années. Le cynisme aime entendre la rumeur, pas la vérité. Il ne protège pas. Il passe la rumeur à d'autres. Tu sais, le cynisme, c'est quoi? Hein? C'est quand, tu sais, quand ils disent « ne se réjouis pas de l'injustice », en d'autres mots, as-tu déjà une feeling, tu sais, que quelqu'un vient te confirmer, vient dire quelque chose sur Madame une telle, qui est négatif? Puis là, en dedans, tu dis « oh, je le savais donc. » Alors, je le dis, je m'en doutais. C'est ça, se réjouir du mal. L'amour ne se réjouit pas de voir d'autres subir du mal. Et voici la bonne nouvelle. C'est qu'on peut le faire, c'est faisable. Tout à fait. Tu ne peux pas le faire dans ta chair, tu ne peux pas le faire au naturel, mais tu peux aimer, selon 1 Corinthiens 13, si tu es un disciple de Jésus-Christ, tu peux le faire avec la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la bonne nouvelle. C'est un acte de volonté rendu puissant par le Saint-Esprit quand on lui remet le contrôle. Et c'est ça que l'amour signifie dans Corinthiens 13. C'est Dieu qui nous demande de vivre selon ce que nous sommes devenus, des enfants de Dieu. Alors vas-y, aime. Aime selon 1 Corinthiens 13. Et nous voulons ce matin prendre la Sainte Cène en mémoire de ce que le Seigneur a fait, justement qu'il nous a mis en premier. Il a mis ses intérêts de côté. Il a souffert pour nous. Et on veut prendre la Sainte Cène en mémoire de ce sacrifice, qui est cette plus grande preuve d'amour. Alors, les frères, si vous pouvez venir distribuer les éléments.